France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité par Anne-Laure Chouin.
Bonjour à toutes et à tous. Alors que deux nouvelles manifestations sont programmées au Venezuela par l'opposition cette semaine et que la crise politique bat son plein, la crise économique, elle, s'aggrave encore. Une nouvelle dévaluation du bolívar a été annoncée hier par Nicolas Maduro. Le bolívar qui a perdu 35% de sa valeur pour s'adapter au taux de change parallèle. Les États-Unis et la Chine continuent de s'affronter via l'inculpation de la dirigeante de Huawei, arrêtée au Canada en décembre dernier, et inculpé cette nuit par la justice américaine pour 13 motifs. Le FBI vise l'entreprise chinoise de télécommunications pour association de malfaiteurs en vue de voler des secrets industriels. En représailles, la Chine a depuis arrêté deux Canadiens et a condamné à mort un troisième. On y reviendra à 7h35 dans la revue de presse internationale de Camille Magnard. Un répit pour les salariés de l'usine Ford de Blanquefort en Gironde. Le PSE qui prévoyait de fermer le site girondin n'a pas été homologué par la direction du travail, ce qui signifie concrètement qu'un repreneur potentiel a encore quelques semaines pour affiner son offre de reprise. Une reprise qui avait été refusée par le constructeur américain mi-décembre, provoquant la fureur de Bercy. La loi anti-casseur examinée par les députés aujourd'hui et demain, un texte issu de la droite mais souhaité par le gouvernement pour répondre aux violences dans les manifestations, notamment des Gilets jaunes. Et pourtant, même dans la majorité, le texte fait débat. Une majorité qui l'a largement retoqué en commission. La création notamment d'un fichier national des personnes interdites de manifestation n'est plus à l'ordre du jour. Et puis, les négociations sur la réforme de l'assurance chômage vont-elles se poursuivre? Hier, les trois principales organisations patronales ont indiqué se retirer des discussions tant que le système de bonus-malus sur les contrats courts était à l'ordre du jour. Cette taxation des entreprises qui utiliseraient trop de CDD est une demande des syndicats appuyée par le gouvernement, mais le patronat n'en veut pas.
Tous les jours sur France Culture à 11h, Culture Monde, le magazine sans frontières, Florian Delorme.
Cette semaine, Culture Monde vous propose une série consacrée à la police et aux relations qu'elle entretient avec ses citoyens. Les récentes violences policières lors des manifestations des Gilets jaunes nous invitent à nous pencher sur la manière dont la police doit, peut maintenir l'ordre sans devenir elle-même un agent de cette violence. Que nous apprennent les expériences étrangères en la matière? Comment les autres pays pensent-ils leur système policier? Depuis la police française jusqu'aux policiers américains, parfois taxés de racisme, en passant par le Mexique où la corruption gangrène les forces de l'ordre. Mais que fait la police? Rendez-vous cette semaine dans Culture Monde.
Culture Monde, le magazine sans frontières, de lundi à vendredi à 11h et sur franceculture.fr.
Et il est 6h et bientôt 3 minutes sur France Culture. La matinée débute en douceur avec le réveil culturel de Toufi Kekem.
Le réveil culturel. Toufi Kekem.
Bonjour tout le monde. La Maison de la Culture du Japon propose jusqu'au 16 mars l'exposition Fujita, œuvre d'une vie. C'est une rétrospective en 36 tableaux pour marquer le cinquantenaire de la mort du peintre japonais le plus connu dans le monde. Alors entre Paris, où il a plusieurs reprises longtemps séjourné, son Japon natal et ses nombreux voyages en Amérique du Sud, quelle vision de la première partie du XXe siècle avait cet artiste? On en parle ce matin avec une spécialiste de Fujita, Sophie Krebs. Le réveil culturel, c'est tous les jours à 6h du matin à la radio ou quand vous voulez en passant par le podcast, émission préparée avec Corinne Amar, réalisée par Vincent Abouchard avec ce matin pour la prise de son Alain Joubert.
Le réveil culturel, mardi, expo.
Et c'est une rétrospective qui a eu un succès retentissant au Japon. Plus de 400 000 visiteurs ont célébré le peintre Fujita, puisque c'est quand même un enfant du pays, même s'il a beaucoup séjourné en France. Et l'expo Fujita, l'œuvre d'une vie, arrive en France, à la Maison de la Culture du Japon. Et on peut voir quelques toiles du maître pour la première fois. La commissaire de l'exposition, Sophie Krebs, est avec nous ce matin. Vous êtes conservatrice générale du patrimoine au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris. On verra pour la première fois quelques tableaux de Fujita qui ne sont jamais passés par la France.
Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de tableaux qui ne sont pas allés en France, puisque à après son premier séjour et le dernier, il a vendu bien entendu des œuvres. Et surtout, il y avait ces fameuses œuvres de la guerre qui ont été confisquées par le gouvernement américain à la fin de la guerre comme œuvres de propagande et qui sont toujours propriété de Washington, il faut le savoir, et qui sont pour la première fois ont voyagé hors du Japon. Donc ça, c'est une tout à fait une bonne nouvelle, parce que ça permet maintenant de voir des choses qu'on ne voyait pas ou qu'on cachait un petit peu au Japon.
Et il y avait quelque chose à cacher, justement, pour parler de ces œuvres.
Oui, là,
de façon, guerre de Fujita.
On sait que le Japon n'a pas eu le procès de Nuremberg et que c'est resté un pays qui a gardé une certaine fierté et n'a pas tellement reconnu de par le monde tous les exactions qu'ils ont fait pendant la guerre. La question de Fujita a été, c'est une toute petite question, hein, parce que le pauvre Fujita...
Il était enrôlé de force.
Comme tous les peintres, on avait de couleurs ou de toiles que si, effectivement, on collaborait avec le régime. Et sinon, mourait de faim, c'est à peu près la seule possibilité qu'on avait à ce moment-là. Donc, il n'était pas fait pour être un peintre de propagande, mais il a joué le jeu, parce que c'était...
Une question de survie.
Voilà, une question de survie. Il choisissait pas ses sujets, on lui imposait, il faut le savoir, ça aussi. Et donc, au départ, on voit effectivement des tableaux entre guillemets militariste, où il montre effectivement le nouveau matériel, les champs de bataille. Il y va, d'ailleurs, il assiste, mais comme beaucoup de peintres, il voit pas grand-chose. Hein. Vous avez la fumée, des bombardements, mais c'est assez difficile de traduire la guerre. Et puis très vite, il va abandonner les champs de bataille, d'abord parce que c'était de plus en plus dangereux, et il va faire ça de mémoire, ou plus exactement en se remémorant tous les grands maîtres de la peinture française, notamment Géricault, Delacroix, qu'on voit dans la grande galerie du Louvre, où on voit vous savez, la fameuse geste napoléonienne, où on voit tous ces...
Qu'il a sillonné tant de fois lors de son premier séjour à Paris.
Voilà, exactement.
Et que disent justement ces tableaux de la guerre de Fujita, Sophie Krebs? Est-ce qu'ils restent dans son style, d'après vous, ou est-ce que c'est vraiment une parenthèse?
Je dirais c'est quand même une parenthèse, mais il la joue à fond. Comme lorsqu'il est peigné des chats ou des femmes nues, il a été jusqu'au bout, jusqu'à savoir par cœur le dessin, les faire quasiment de mémoire. Là, c'est pareil. Il est capable de faire, en très peu de temps, parce que quand on voit des grands panneaux, hein, ça fait 3-4 mètres sur 2, ce sont des choses assez impressionnantes, de couleur ocre, parce que je pense qu'il n'avait pas toutes les couleurs. Ça aussi, c'est une chose qu'il faut savoir, c'est que les restrictions de guerre faisaient qu'on n'avait pas tous les pigments nécessaires pour faire de la peinture. Et donc, il a fait deux œuvres, c'est les deux œuvres de la fin, et il montre plutôt des défaites japonaises, ce qui est très étonnant quand on est dans le pays très nationaliste et qu'était le Japon à l'époque.
Et très contrôlé, je suppose.
Et très contrôlé, de faire quasiment des défaites où on voit des Japonais qui se battent jusqu'au dernier, d'où le terme de harakiri, hein, parce qu'ils se font tous un petit peu, tous se sacrifient. Donc c'est à la fois pour le Japon impérial et militaire, c'était une façon de dire, les Japonais, sacrifiez-vous jusqu'au dernier. Pour lui, c'est très ambigu. Je pense qu'il y a une forme d'ode contre la guerre, quelque part. Parce que quand vous regardez bien ces tableaux, il y a une chose, moi, à chaque fois, je suis toujours étonné. Je n'arrive pas à savoir qui est japonais, qui est américain.
Oui, parce que tout est crépusculaire.
Oui, mais même les costumes ou même les casques, on pourrait. Il y a des gens qui tiennent un sabre japonais, mais qui ont des têtes d'Américains, et puis vous avez d'autres qui sont soi-disant Américains, mais qui ont des têtes de Japonais. C'est très très étrange et très dérangeant quelque part, parce que vous n'arrivez pas à savoir à quoi on a affaire. On est face à vraiment une mêlée. Et dans la mêlée, vous ne reconnaissez pas vraiment qui est le victime et qui est l'agresseur.
Comment il ressort de cette période, Fujita? Parce que je rappelle, Sophie Krebs, dans cette exposition, qui est plutôt une rétrospective avec un choix restreint, mais qui explique bien toute l'œuvre de Fujita, qui a l'avant et l'après aussi.
Alors, on peut dire qu'il s'en remet, mais il s'en remet pas vraiment. C'est-à-dire que le Fujita, fanfaronnant et je dirais facile.
Des années folles,
ou même de la période américaine où il voyage, a un petit peu disparu et va quitter, je dirais, le monde de la réalité. Vous aviez, on peut faire allusion notamment au manga, parce que chez les Japonais, Fujita est quand même un artiste qui est perçu comme pré-pop. Ce qui peut paraître étonnant, mais quand on voit la dernière période de sa vie...
Même son autoportrait, il est assez pop quand
même,
non ?
Oui, il y a quelque chose de tout à fait étonnant, ce jeu sur les objets qu'il affectionne. Mais surtout, à la fin, on n'est plus dans le monde de la réalité. Il a quitté, d'ailleurs, toutes ces toiles de la fin sont peuplées de... On ne sait pas si c'est d'enfants ou de poupées, on est entre les choses un peu bizarres, mais vous savez, le pop japonais est quand même fondé sur une sorte d'enfance qui lui-même va chercher certaines sources dans le manga japonais. Donc ce côté petite fille ou petit garçon qui nous rend très, comment dire, quelque part on est un peu mal à l'aise face à cette espèce d'expression, mais a très très bien
Pourquoi
marché.
Pourquoi mal à l'aise, Sophie Krebs?
Parce que ce sont des enfants sexués, quelque part. Je crois que les choses sont, pour moi, claires et nettes. Aujourd'hui, on peut plus faire un peu l'impasse là-dessus. Dans les années 50, on trouvait ça mignon, joli. Mais je pense que c'est pas si mignon ni si joli que ça. C'est une sorte de manière de montrer l'enfance. Et vous savez très bien que dans l'art, ça a fait débat ces dernières années, puisque c'est cette liberté artistique est quelque part remis en cause par un certain nombre d'associations protectrices des enfants. Donc on a eu ces débats ces dernières années, et chez Fujita, c'est quelque chose de très intéressant. De même que quand il ne peint pas des enfants, il peint des animaux à la place, qui mime. Qui singe, je dirais, les adultes. Donc c'est très intéressant, c'est qu'il quitte cette espèce de réalité. Et troisième période, après la guerre, il se convertit au catholicisme dans les années 60. Et là, vous avez, je dirais, une réinterprétation à la manière de Fujita de toute la peinture religieuse depuis le 15e siècle flamand, où il se met carrément en orant, agenouillé auprès de la Vierge. Enfin, c'est très, très, très étonnant.
Et en même temps, c'est très beau, on peut le dire, Sophie Krebs.
Alors, c'est une très belle peinture, ouais. Oui. C'est quelqu'un qui peint bien, qui est vraiment un maître du trait, comme on l'a souvent surnommé, et qui sait manier avec beaucoup d'élégance la peinture, les silhouettes, mais qui est toujours à la limite, vous savez. Moi, j'ai toujours pensé que Fujita avait quelque chose à voir avec le mauvais goût. C'est une acception qui est aujourd'hui assez répandue dans l'art de contemporain. À la limite, depuis Jeff Koons, vous savez, plus rien ne...
Et c'était volontaire chez Fujita, je suppose.
Et je pense que c'était volontaire.
Un artiste qui se veut promener à poil lors de ses expositions, il cherchait aussi ça.
Oui, je pense qu'il cherchait ça. Et puis, je pense que c'est quelqu'un qui avait connu, qui avait très bien compris comment utiliser son image devant les médias. Ça, c'est quelqu'un qui, très tôt, a travaillé avec les médias. Quand on voit que même dans les années 20, il est sur les premiers films d'actualité, on le voit, il est le petit toutou, j'aime bien cette expression-là, de Mistinguette, qui l'emmène à Deauville et qui le balade comme son petit, sa nouvelle trouvaille, où il fait le pitre pour, parce qu'il était en plus très doué de ses mains, il faisait des costumes, puisque pendant la guerre, il avait la guerre de 14, il s'était réfugié en Angleterre et il avait travaillé chez un tailleur. Et donc, il avait appris la couture. C'est pour ça qu'on le voit souvent avec des dés, des aiguilles, parce qu'il faisait ses propres vêtements. Donc, il avait un talent fou. Et il a très vite capté l'intérêt d'être un Japonais à Paris, d'être le seul, l'unique, le et avec sa tête bizarre, sa mèche, sa coupe au bol ou ses anneaux d'oreilles, il était effectivement impayable. Enfin, tout le monde le reconnaissait. Hein.
C'était le Zazou, c'était le roi des Zazous.
Voilà. Et d'ailleurs, rien ne lui faisait plus plaisir que justement d'être reconnu dans la rue.
Y compris quand il allait du côté du marché de Saint-Ouen.
Oui.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
C'est au marché aux puces que l'on trouve toutes les sortes d'occasions.
Moi je cherche un mirus,
moi une lampe à pétrole
et moi un tire-bouchon.
Il y a même des trucs de luxe,
des costumes, des cravates et sans point.
Sur de telles occasions, faut sauter à pieds joints au marché aux puces à Saint-Ouen.
Tout le monde a besoin d'amour et moi je suis comme tout le monde. Pendant des nuits et des jours, j'ai rêvé d'une jolie blonde. Dans tout Paris, j'ai fait de nombreux essais. Malheureusement, chaque fois son succès. Mais j'ai fini quand même par dénicher ce que j'avais tant cherché. C'est au marché aux puces, j'ai trouvé un petit cœur d'occasion.
À côté d'un virus, entre une paire de bretelles et un petit bouchon. Un sourire plein d'astuces,
de petites fossettes dans tous les coins.
Sur une telle occasion, faut sauter à pieds joints.
Au marché aux puces à Saint-Ouen. C'est au marché aux puces.
J'ai trouvé un phono d'occasion.
On imagine bien Fujita traînant dans ces marchés-là, le marché aux puces de Saint-Ouen, par exemple. Alors, on est en train de fêter un peu le cinquantenaire de sa disparition. Ça a commencé par l'exposition au musée Mayol. Et en ce moment, c'est à la Maison de la Culture du Japon qu'on rend hommage avec cette rétrospective en 36 tableaux. Fujita, donc, l'œuvre d'une vie, Sophie Krebs. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'expo du Japon qui a eu un tel succès au Japon, qui arrive tel quel en France, où vous avez choisi parmi les œuvres exposées un choix représentatif pour le public français?
Alors, oui, c'est tout à fait ça. Il y a eu beaucoup de problématiques avant cette exposition à la Maison du Japon, puisque ça devait être dans un musée français. Et pour plein de raisons, ça n'a pas pu se faire. Donc la sélection que nous avons fait avec la commissaire japonaise Yoko Hayashi, c'était de faire une sélection qui soit représentative pour un public français. Alors pourquoi français ? Qu'est-ce que les Français, en fait, c'est plutôt.
Tout en plus que Fujita, c'est le plus français des Japonais.
Oui. Alors, mais on a fait beaucoup. Il y a beaucoup de jeux sur qu'est-ce que la France vue par Fujita. Si on regarde bien, ça va de ses autoportraits où il met de la céramique des îlettes, en passant par les sabots bretons qu'il avait acheté lors d'un voyage, ou tout un ensemble d'idées. Même d'idées reçues hein, sur ce que c'est que la France, avec effectivement des objets usagés. C'est assez amusant de voir que ça ne l'a jamais lâché depuis le début jusqu'à la fin de sa vie.
Est-ce qu'on peut dire qu'il a été vraiment le témoin d'une époque, Fujita, de cette première partie du 20e siècle? Par exemple, quand il revient en France, donc je parle pas du premier séjour, le séjour d'initiation, de formation à l'art occidental via la peinture française, quand il revient en France, est-ce que il va remarquer tous les changements? Est-ce qu'il va les représenter?
Oui, D'ailleurs, il participe à un salon qui s'appelle le salon Témoin de son temps, qui donnait des thèmes. Il va participer. C'est un salon figuratif. En pleine après-guerre, on est quand même beaucoup dans l'abstraction. Et lui fait exception. Il était d'ailleurs très très ami avec Bernard Buffet et même les jeunes peintres. Il s'intéressait beaucoup à ce que faisaient les jeunes peintres. Donc c'est pas quelqu'un de. Alors il a sa propre carrière, mais il s'intéressait aux autres de manière très précise. Et il était très connu même. Après-guerre, on le voyait partout, il se rendait partout.
Ces scènes de bistrot, de café sont vraiment exceptionnelles.
Tout à fait, on a l'impression qu'on était là hier. Ouais. Hein. Donc il y a un sens de l'observation chez lui qui est très fort. Hein. C'est ça. C'est d'ailleurs tout ce que les critiques qui l'ont vu la première fois ont dit. Oui, il nous met le nez là où on ne voyait plus rien. Et lui, il nous redonne ce goût de l'objet, de voir des choses qui nous paraissent maintenant assez drôles, où on avait oublié l'assiette de la grand-mère qu'on a mis, ou la gravure d'Épinal qu'on a peut-être dans nos greniers quelque part.
Il a même réussi à un inventaire de qu'est-ce que la France,
en
relevant tous les détails. C'est plutôt bien vu. Mais Sophie Krebs, est-ce qu'on peut dire que Fujita a toujours été bien vu par la critique, puisque vous parlez de la critique? Il a été réévalué plusieurs fois lors de ces 50 dernières années depuis qu'il a disparu en 1968.
La critique ne l'a pas toujours épargné. La critique même japonaise d'abord, parce que c'est quand même quelqu'un qui a décidé de quitter le Japon. Et quelque part, ils sont, comme je vous l'ai dit, assez nationalistes dans l'âme. Et il a changé de nationalité, ce qui, quand vous faites naturaliser
français... Avant de changer de religion, oui.
Oui, oui. Et donc, quand vous faites français, vous abandonnez la naturalité.
Nationalité japonaise.
Donc c'est la raison pour laquelle les Japonais ont mis beaucoup de temps avant de l'apprécier. Il faut attendre les années 80 pour qu'il y ait un véritable engouement de ce peintre japonais. Avant, il n'est pas tellement collectionné, c'est plutôt en France. Les Français l'ont toujours apprécié, mais pratiquement qu'en France. Et puis, il y a eu une espèce d'abandon de Fujita, parce que c'est l'école de Paris, c'est des peintres, des petits peintres, des choses pas très intéressantes. Donc il a fait partie de ce mouvement qui faisait que c'était pas très intéressant. Mais il y a eu des critiques très très positives dès le début, quand il est arrivé en France. Ça a toujours été, et on a toujours mis l'accent sur ses grandes qualités graphiques, son sens de l'observation. Après, vous avez d'autres critiques, peut-être plus politiques, qui l'ont vu comme un peintre bourgeois, qui fait un petit peu son miel de demi-mondaine.
Donc oui, ça... dandy, mandin, ok, zazou, ok, mais pour bourgeois, j'arrive pas à voir Sophie Krebs. Qu'est-ce qu'il fait?
Il ne l'est pas, lui. Oui. Il n'a pas une vie bourgeoise, c'est moins qu'on puisse dire. Ce serait plutôt bohème, avec moult femmes et problèmes qui vont avec. Parce que quand même, quand il est avec Yuki Desu, c'est un ménage à trois avec Desnos à un moment donné. Ce qui lui fait dire que, bon, il n'a pas nécessairement voulu cette situation-là. Raison pour laquelle il part de France. Ça, je pense que c'était trop compliqué pour lui. Je veux bien le croire que ça va être un peu compliqué de partager une femme avec, même si c'est un surréaliste tout à fait charmant. C'est un peu cette vie un peu qui n'a rien à voir avec une vie bourgeoise. Mais il a été apprécié auprès d'un public bourgeois. C'est plutôt dans ce sens-là. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça n'a plus lieu d'être. Ceci dit, ce sont des œuvres qui valent très très cher.
Aujourd'hui ?
Oui.
terminer, Sophie Krebs, quelle est votre propre histoire avec Fujita? Parce que là, vous vous occupez bien sûr de cette exposition à la Maison de la Culture du Japon. Mais j'ai remarqué que ça fait longtemps que vous vous intéressez à Fujita.
Ah oui, ça a commencé quand une vieille dame qui s'appelait Kimio Fujita est arrivée un jour au musée en nous offrant, pour une donation, les dernières œuvres de sa vie, qui étaient que des tableaux religieux. Et quand on a vu ça, musée d'art moderne de la ville de Paris, dirigé par Suzanne Paget à l'époque, plutôt très contemporain, on a fait quand même « Waouh, ça va être compliqué à montrer hein. ». Et on a quand même accepté, on aurait pu dire « Non, c'est pas notre tasse de thé ». Et moi, je suis toujours très intrigué par des artistes qui continuent à œuvrer malgré tout, qui ont une période connue et qui continuent à travailler. Pourquoi ce serait moins bien à la fin qu'au début? Alors on peut dire il est un peu sénile, il est un peu ceci, il est un peu cela, mais c'est pas le cas de Fujita du tout. Il y a peut-être une moins... Les thèmes changent parce que sa vie change aussi. Et je pense qu'on est toujours un petit peu exigeant. On veut que tout... Regardez Matisse, il n'avait pas été malade et il n'aurait peut-être pas fait ses papiers découpés. Donc on ne sait jamais ce que la vie vous réserve. Et un peintre, c'est du début jusqu'à la fin. C'est pour ça qu'on fait des rétrospectives. C'est pour tout montrer. Si on ne commence par ne pas montrer l'ensemble, on triche un peu quelque part. On déforme une carrière d'un artiste.
Mais il y a un tableau, une toile, un détail chez Fujita qui vous a touché très particulièrement, Sophie Krebs.
Je pense que j'ai été assez étonnée par ses autoportraits. Je pense que de loin, c'est ce que de toute son œuvre, si je devais emporter quelque chose de lui, c'est ses autoportraits. Cette façon, ce face-à-face, parce qu'il se montre toujours de face, extrêmement sérieux, à la japonaise, avec tous ces petits gris-gris autour.
Si on regarde ses crayons, ses chats.
Voilà. Et toujours en montrant une image de ce qu'il fait. Donc c'est pas un peintre qui, il se montre quand même comme peintre. C'est vraiment une image de peintre. Ça pourrait être, je dirais, il revient vers une tradition du portrait de peintre, mais qu'il met au goût du jour, au goût un peu japonais, mi-français. Mais quelque part, des fois, c'est très japonais quand on regarde ses autoportraits. Mais ça n'a rien à voir avec l'art japonais non plus. Donc on est dans un espèce d'entre-deux. Où on ne sait pas si ce qui est vrai de ce qui n'est pas vrai, de ce qui est vraiment français, de ce qui ne l'est vraiment pas. Moi, j'ai beaucoup de mal à savoir ce qui... Il y a quelque chose d'étrange, et c'est cette étrangeté qui est plutôt intéressante pour lui.
Bon, moi, j'arrive pas à dire le prénom de Fujita, mais vous le savez.
Suguharu.
Bravo, Sophie Krebs.
C'est Léonard, hein, après.
Après, c'est Léonard, bien sûr. Merci d'être venu pour nous parler justement de cette rétrospective. Fujita, œuvre d'une vie en 36 tableaux, c'est jusqu'au 16 mars à la Maison de la Culture du Japon. Merci beaucoup, Sophie Krebs.
Vous êtes sur France Culture. Dans un instant, les informations de 6h30. À suivre, le journal des idées par Jacques Munier et les enjeux internationaux par Xavier Martinet.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture présente le festival littéraire Jardin d'hiver à Rennes. Durant 3 jours, les champs libres se métamorphosent en jardin d'hiver, où fleurissent des propositions inédites pour savourer la littérature. Concerts littéraires, escape game, création d'étudiants, lecture publique. Parmi les nombreux invités, retrouvez notamment Maïlys de Kerangal, Pauline de Labroix-Allard, Éric Guyard et Mona Ouzouf. Jardin d'hiver, du 1er au 3 février, aux champs libres à Rennes. Un partenariat France Culture.
Faut-il lancer des pavés pour avoir gain de cause? Le smartphone nous a-t-il domestiqués? Pourquoi faire encore des enfants? France Culture, partenaire de la Nuit des Idées, organisée partout dans le monde par l'Institut français, s'installe à la BNF jeudi 31 janvier sur le thème « Face au présent ». Une soirée spéciale en direct et en public, une battle d'idées, 5 débats animés par Olivia Gesbert et Hervé Gardette, suivis des masterclass de Pierre Rosanvallon et Mona Ouzouf. La Nuit des Idées, jeudi 31 janvier dans le hall de la BNF, site François Mitterrand à Paris, de 18h20 à 23h, entrée libre et gratuite. Plus d'infos sur les sites France Culture, La Nuit des Idées, sur Facebook et hashtag La Nuit des Idées. Vous êtes sur France Culture, tout de suite le journal de 6h30 avec Anne-Laure Chouin.
Bonjour à toutes et à tous. Nous irons au Venezuela dans ce journal où, en plein chaos politique, le président toujours en poste, Nicolas Maduro, a une nouvelle fois dévalué le bolivar. En Égypte, Emmanuel Macron a lui évoqué la question des droits de l'homme et notamment ceux de la minorité copte avec son homologue, le maréchal Sissi, nous dira Bertrand Galichet. Et puis en France, la loi anti-casseurs est étudiée à partir d'aujourd'hui par les députés, un texte édulcoré en commission par rapport à sa version initiale. L'opposition se prépare à manifester, l'armée est appelée à déserter. Au Venezuela, la situation politique est plus que jamais chaotique pour le président Maduro qui, furieux après l'annonce hier de nouvelles sanctions de Washington sur le pétrole vénézuélien, a promis que si le sang coulait dans son pays, ce serait de la faute de Donald Trump. Les manifestations d'opposants ont déjà fait au moins 35 morts et le naufrage économique continue. Lui aussi, une nouvelle dévaluation de la monnaie a été annoncée hier. Le bolivar perd 35% de sa valeur par rapport au dollar. Le taux de change officiel rattrape ainsi le taux parallèle et permet au régime de garder le contrôle sur sa monnaie. La correspondance à Caracas de Benjamin Delisle.
Ces derniers mois, changer de l'argent au marché noir était jusqu'à 30 fois plus avantageux à cause du très strict contrôle des changes et des devises en vigueur au Venezuela. Ce contrôle, installé en 2003 en plein boom pétrolier, visait à rendre plus complexe l'accès au dollar pour les particuliers et les entreprises, afin qu'ils préfèrent utiliser le bolivar. Mais avec la crise économique et l'hyperinflation, tous les Vénézuéliens se sont tournés vers le marché noir pour se débarrasser de leur bolivar, dont la valeur se dépréciait chaque jour, et récupérer des dollars plus stables. Ce système de contrôle contesté a donc enfin sauté, mais trop tard, à en croire une série de tweets de l'économiste Asdrubal Oliveros du cabinet EcoAnalytica. L'inflation est stratosphérique, 10 millions de pourcents selon les FMI en 2019, donc les Vénézuéliens n'ont plus aucune confiance dans leur monnaie. Et sans cette confiance, le bolivar va continuer d'être échangé contre des dollars et l'inflation va repartir de plus belle.
Benjamin Delisle, on pensait son sort réglé, mais la Cour suprême pakistanaise doit confirmer aujourd'hui la décision qu'elle avait prise au sujet d'Asia Bibi, cette chrétienne restée des années dans le couloir de la mort pour blasphème, c'était en 2010, suite à une dispute avec des voisines pour un verre d'eau. Acquittée fin octobre, la jeune femme doit attendre cette confirmation avant de pouvoir enfin quitter son pays. À Islamabad, la correspondance de Solène Fioretti.
Ce pourrait bien être le dernier volet d'une saga judiciaire vieille de 9 ans. Asia Bibi, mère de famille d'une cinquantaine d'années, n'a jamais été aussi proche de la libération. Le 31 octobre dernier, la Cour suprême acquitte la chrétienne, estimant dans un verdict très détaillé que le dossier d'accusation est vide. On peut y lire que les témoignages des accusés se contredisent et que les aveux d'Asia Bibi ont été retirés sous la contrainte. L'affaire semble pliée. Mais c'était sans compter sur un énième rebondissement. Quelques jours après le verdict, des émeutes menées par des islamistes radicaux font plier le gouvernement. Ils seront autorisés à déposer un recours contre l'acquittement. Il semble pourtant peu probable que le panel des juges d'aujourd'hui, quasi identique à celui qui avait décidé du verdict, revienne sur son jugement. Historiquement, la Cour suprême est la plus clémente sur les affaires de blasphème. Asia Bibi pourrait donc être libre dès ce soir. D'après son avocat, elle compte rejoindre ses enfants au plus vite, tandis qu'elle était maintenue en résidence surveillée, probablement cachée dans la capitale. Son mari et ses filles ont fait les frais de son acquittement. Plusieurs associations chrétiennes ont affirmé qu'ils avaient été traqués par des militants islamistes avant d'obtenir des visas pour l'étranger. Si plusieurs pays européens, dont la France, ont manifesté leur bonne volonté pour l'accueillir, c'est probablement au Canada que compte se rendre Asia Bibi, devenue grande icône des dérives de la loi anti-blasphème au Pakistan.
Les droits de l'homme en Égypte et notamment ceux de la minorité copte, vaste sujet que le président français avait promis d'aborder avec son homologue le maréchal Sissi lors d'une visite entamée hier et qui se poursuit aujourd'hui. Il y a quelques mois, Emmanuel Macron refusait, dit-il, de donner des leçons en la matière. Cette année, les choses ont apparemment changé. Le récit au Caire de notre envoyé spécial Bertrand Galichet.
C'est un choc des cultures qu'Emmanuel Macron a décrit hier soir en évoquant les difficultés et les progrès de la relation franco-égyptienne sur les questions de société. Le président français revenait du chantier de la future capitale administrative à une soixantaine de kilomètres du Caire qu'il a visité en compagnie de son homologue égyptien.
La question des droits de l'homme, j'en ai abondamment parlé et avec le président Sissi. Sans rien oublier non plus de la difficulté liée au contexte de la région et des gestes qui sont faits. J'ai vu tout à l'heure la cathédrale qui vient d'être ouverte pour les Coptes. vote, il y a encore 4 ans, 5 ans, ceci n'était pas acquis.
Une manière de rendre hommage sur ce point au régime égyptien qui protège la communauté copte forte de 10 millions de personnes. Emmanuel Macron rencontre ce matin le pape copte orthodoxe, représentant d'une tendance religieuse plutôt libérale, avant de s'entretenir avec le grand imam de la mosquée Al-Azhar, un musulman modéré, favorable au pouvoir en place. Loin des micros et des caméras, le président français recevra ensuite à la résidence de France des ONG, souvent dans le collimateur du régime égyptien.
Bertrand Galichet. En France, la loi dite anti-casseurs arrive dans l'hémicycle aujourd'hui. Souhaitée par le gouvernement, issue des rangs de la droite, elle a été largement retoquée en commission car elle provoque des remous au sein même de la majorité. Un texte trop remanié selon la droite, pas assez selon la France insoumise. Le député LFI du Nord, Hugo Bernalici, écoutez-le, interrogé par Rosalie Lafarge.
Ce sera une opposition frontale, article par article, de bout en bout. Parce que, par ailleurs, il y a déjà suffisamment de choses en termes d'arsenal répressif dans le droit actuel. Il y a tout ce qu'il faut et même déjà trop. Si quelqu'un est violent en manifestation aujourd'hui, il y a tout ce qu'il faut dans la loi pour l'interpeller, le déférer, le placer devant le magistrat et éventuellement le mettre en prison. Donc qu'est-ce qu'on veut de plus, si ce n'est de mettre des formules étranges qu'on utilise d'habitude pour les terroristes, qui sont déjà suffisamment douteuses, du type « si nous avons des raisons sérieuses de penser que ». On est en train de passer d'une justice où on va constater des faits à des comportements, une dangerosité. On est en train de basculer dans un autre univers, qui est celui plus de George Orwell que de la République. Et puis quand vous en venez à dire qu'il faudrait peut-être interdire les flashballs et les grenades GLI F4, comme le réclame le défenseur des droits, qu'on vous traite de fou et que vous mettriez en danger les policiers et les gendarmes, en l'occurrence, ça aurait juste pour effet qu'il n'y ait plus de mutilés et de blessés graves, de gens qui perdent un œil, de gens qui perdent une main. Donc, à un moment donné, il faut garder la raison. S'ils veulent une escalade de la violence et de la radicalisation, qu'ils fassent comme ça. C'est la mauvaise direction. Nous, on est pour la désescalade, on est pour que les choses se passent tranquillement et pacifiquement. En tout cas, le gouvernement n'aide pas.
Le député de la France insoumise, Hugo Bernalici. L'administration française a rejeté hier le plan social de Ford dans son usine de Blanquefort en Gironde, un PSE qui prévoyait la fermeture du site. La direction du travail ne l'a pas homologué, ce qui signifie un petit répit pour les 870 employés de l'usine et la possibilité pour un repreneur d'affiner encore son offre de reprise, une reprise qui avait été refusée par Ford mi-décembre. Les prétendants à la mairie de Paris, pour La République En Marche se mettent en ordre de marche. Justement, hier, la majorité d'entre eux s'était donné rendez-vous au théâtre du Trianon à Paris pour la conclusion de travaux sur ce qu'attendent les Parisiens en vue des prochaines municipales, des travaux qui doivent permettre au parti présidentiel de se donner une ébauche de programme pour ravir la capitale au PS. Le reportage de Maxime Fayol.
Les marcheurs ont isolé plusieurs grands thèmes, ceux auxquels les Parisiens sont le plus sensibles. Le premier, c'est l'espace public, c'est-à-dire la propreté et l'insécurité. Le second point, les transports et la pollution. Et le dernier, la solidarité et la lutte contre la solitude. Un diagnostic, somme toute, assez logique, mais qui est une bonne base pour Mounir Majoubi, l'un des candidats déclarés à l'investiture au sein de La République En Marche.
Il y a plusieurs étapes. Là, il fallait faire le diagnostic. On a les groupes de travail qui ont commencé à poser les bases de ce que pourrait être notre projet. Maintenant qu'on a une vision plus claire de ce que veulent les Parisiens, il faut qu'on aille retourner avec des idées, qu'on les fasse grandir, qu'on puisse échanger et que comme ça, dans les prochains mois, on aura une tête de liste et avec cette tête de liste, on aura un projet et ce sera le meilleur moment pour démarrer notre campagne.
Il faut dire que pour le moment, le parti voit flou sur sa tête de liste. Ils sont 6 à briguer l'investiture, alors de là à créer quelques tensions, c'est au contraire une bonne chose, estime le député de l'Essonne, Cédric Villani, lui aussi candidat.
Il y a au mieux une accusation de démocratie forte, qui dit qu'il y a pas mal de monde qui est reconnu comme légitime et qui va rechercher à être en phase avec le collectif qu'une situation dans laquelle il y aurait un seul candidat désigné et qui serait un déni de démocratie.
À plus d'un an de l'élection, le parti semble avoir beaucoup misé sur la capitale où Emmanuel Macron a réuni 35% des voix au premier tour de l'élection présidentielle. Il y a un coup à jouer, reconnaît Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement.
C'est très important pour évidemment un mouvement comme le nôtre parce qu'on a un ancrage parisien très marqué. Le but du jeu, c'est pas de dire regardez, on a gagné une, deux ou trois villes. Si on considère que dans des endroits, les maires ont bien fait le boulot, on les accompagnera. C'est pas le cas à Paris. on considère qu'on peut changer les choses, qu'on peut améliorer la vie des Parisiens et que ça permettra de transformer le pays encore plus vite. Ce sera une bonne chose.
Reste à savoir qui, parmi ces trois favoris, mais aussi Hugues Ranson, Julien Bargeton ou Anne Le Breton, sera désigné tête de liste. Réponse après les élections européennes.
Maxime Fayolle, le temps de ce mardi, 41 départements des trois quarts ouest du pays sont placés en vigilance orange avant l'arrivée de la tempête Gabrielle. Elle va traverser le pays d'ouest en est. De la pluie, du verglas et de la neige sont à prévoir, du vent aussi sur la côte atlantique. Journée plus calme sur l'est. Les températures ce matin entre 0 et moins 4 degrés sauf en Bretagne et dans le sud-ouest. Et cet après-midi, il fera de 6 à 10 degrés de la Bretagne et du centre au sud-ouest, de 9 à 13 degrés près de la Méditerranée, de 1 à 6 degrés ailleurs. 6h40 sur France Culture. Bonjour Jacques Munier.
Bonjour Anne-Laure Chouin.
Dans votre journal des idées ce matin, les conditions de vie ou de survie des migrants, elles se sont beaucoup aggravées dans le monde et ceux qui leur portent secours risquent désormais des poursuites pénales.
Ah ouais, un édito du Washington Post publié par Courrier International s'indigne du sort de 4 bénévoles de l'aide humanitaire qui risquent la prison pour avoir laissé des vivres dans le désert d'Arizona où l'on dénombre des centaines de morts. Alors que les procureurs fédéraux ont renoncé à poursuivre un agent de la police des frontières qui a tiré 16 coups de feu en direction du Mexique et tué un adolescent. On a là un aperçu de la justice tordue qui règne à la frontière à l'ère Trump. Sauver la vie d'un migrant et vous risquez de devenir un prisonnier politique. Tuer un adolescent mexicain et vous sortez libre du tribunal, est-il écrit donc dans cet éditorial. La dernière livraison des actes de la recherche en sciences sociales a choisi de changer de focale pour aborder la question. S'il est vrai que l'urgence humanitaire de la crise des réfugiés et les faits de traitement dégradant, voire d'esclavage, dans certains pays de transit, ont durablement installé une image misérabiliste de la migration internationale dans l'opinion publique, la revue s'intéresse aux ressources des candidats au départ en termes de capital social. Bourdieu l'avait défini comme l'ensemble des ressources actuelles ou potentielles qui sont liées à la possession d'un réseau durable de relations plus ou moins institutionnalisées, d'interconnaissance et d'interreconnaissance, ou en d'autres termes, à l'appartenance à un groupe. On le sait, ce sont souvent les plus dotés qui tentent l'aventure, ne serait-ce que parce qu'il y faut des moyens auxquels pourvoient les membres de la famille élargie, et parce que le projet migratoire est le plus souvent une manière d'améliorer son statut social et celui de sa famille restée au pays. C'est pourquoi la moindre reconnaissance symbolique dans le pays d'accueil peut coexister avec une forte reconnaissance au sein du groupe familial et vicinal d'origine, ce qui renforcera d'autant plus l'ancrage matériel dans l'espace de départ, mais aussi paradoxalement l'intégration dans celui d'arrivée. L'enquête réalisée par Anna Portilla dans le quartier populaire de la ville d'Oakland en Californie évoque l'histoire d'Ismaël Rodriguez qui a connu au bout de 10 années une promotion sociale passant de manœuvre dans le bâtiment à chef de chantier. Il peut ainsi payer les frais de santé de ses parents et racheter progressivement les terres qu'ils ont perdues et même se construire une maison au Mexique alors que son statut illégal et le permis provisoire de séjour lié à son emploi l'empêche de quitter les États-Unis pour s'y rendre. Mais tout cela entretient son capital social au pays et facilitera son retour. La sociologue a observé la sociabilité développée dans sa communauté d'immigrants autour de la petite église de Luz del Cristo. Comme partout ailleurs, notamment en Amérique latine, le protestantisme évangélique est le plus souvent une religion de conversion. Aux États-Unis, elle représente plus de 25% de la population, surtout parmi les minorités ethniques. Car il y a une corrélation entre l'expansion de cette religion et celle du libéralisme économique. Là où la main gauche de l'État se retire, où le travail informel et précaire se développe, les gens dépendent de réseaux interpersonnels pour subvenir à leurs besoins. La communauté ecclésiastique les consolide et les entretient. La question du retour, intimement liée à celle du capital social de départ, est abordée dans l'article d'Hugo Bréant. Il rappelle que c'est le plus souvent l'affaiblissement des liens sociaux dans les pays d'origine qui explique le faible taux de réinstallation. Les anciens migrants se retrouvent déconnectés de leurs réseaux locaux, lesquels tendent au fil du temps à se confondre avec le cimetière du village. La revue des mondes musulmans et de la Méditerranée consacre sa dernière livraison aux mobilités et migrations dans la mer commune autour d'une anthropologie de l'absence. Émigrer et s'absenter, parfois définitivement, faire l'épreuve de l'absence dans l'angle mort des politiques d'État, activer l'absence comme une ressource à distance vers sa famille ou sa communauté d'origine, tous les cas de figure sont au sommaire. L'ethnomusicologue Eckhard Pistrick étudie la dialectique du son et du silence dans la perception des émigrés albanais. L'environnement sonore du pays constitue une mémoire fragile mais entêtante. Les sonnailles des brebis, les sons des ensembles de clarinettes qui accompagnent les fêtes, le murmure d'une rivière. Rétrospectif et prospectif à la fois, ils ont la capacité de négocier entre plusieurs spatialités et plusieurs temporalités, quitte à se confronter douloureusement aux remugles de la grande ville de l'exil. Il arrive aussi que, dans un accès de nostalgie, le mal du pays, la silencieuse phonosphère de la mort se rappelle crûment à l'émigrant, ravivant le sentiment que sa fuite en avant s'apparente à une disparition temporaire. Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure de retrouver les enjeux internationaux. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Munier, bonjour à tous.
Et votre invité, bonjour madame.
Bonjour.
Marie-Cécile Nave, bonjour.
Une fois de plus, on est raccord, cher ami.
Oui, tout à fait.
Voilà, au sommaire, c'est Trump face au mur.
Et la fin temporaire du shutdown, et cette première concession de Donald Trump, il faut le souligner, un accord jeudi dernier avec les démocrates pour négocier une solution d'ici le 15 février, pas sûr que le mur en ressorte entier, effectivement, et le président américain donc recule pour la première fois. Alors Marie-Cécile Nave, merci d'être venue, vous êtes chercheuse à l'IRIS. Justement, vous venez d'écrire un article pour la revue Politique Internationale sous forme de questions. Trump réélu. Là, on voit que l'administration repart, le calendrier politique aussi, puisque ça devait être aujourd'hui. Depuis quelques heures, on connaît la date du discours sur l'état de l'Union, 5 février. Consolation ou plateforme pour une nouvelle offensive. Quand même, la première chose, c'est qu'on avait déjà vu le président céder face au juge, mais jamais prendre la responsabilité d'un recul.
Alors lui, le définirait pas comme ça. Pour lui, c'est une victoire, parce qu'il est arrivé à un compromis, donc il se présente comme un homme d'État responsable. Évidemment, il se présente absolument pas comme étant dans un scénario de recul et de défaite. Mais les faits sont là. Il est très affaibli sur le plan politique. Il est par ailleurs inquiet sur le plan judiciaire, ce qui joue aussi sur sa confiance. C'est une très très mauvaise passe pour lui. Mais c'est peut-être juste une passe. C'est-à-dire, il faut quand même être très prudent avec Trump. Avec Trump, on a souvent envie de tirer des conclusions définitives ou des jugements un peu radicaux, des avis un peu radicaux. Il faut être très prudent, même si là, il est évident que les démocrates ont gagné une manche importante et ça se voit à la fois dans le jeu politique à Washington où les républicains commencent à douter de la possible victoire de Trump en 2020, mais même de l'intérêt de sa candidature. Il y a des choses qui... des rumeurs qui commencent à se propager sur le fait que peut-être il pourrait avoir des concurrents pour l'investiture, mais aussi dans l'opinion publique, où l'opinion publique ne lui fait pas confiance. Il a perdu du crédit d'une manière générale auprès de tous les Américains, mais aussi auprès de sa base. Les ultra-conservateurs, certains ultra-conservateurs le qualifient de pleutre. Et ces dernières heures, il a fait une série de tweets un peu dans tous les sens pour vanter son bilan économique en disant, par exemple, des usines s'installent partout aux États-Unis. Sur quelle base rationnelle, on ne sait pas. Et en donnant aussi des gages aux ultra-conservateurs, en disant, voilà, dans certaines écoles, on étudie la Bible plus qu'avant, c'est une bonne nouvelle. Il a reçu aussi des courants ultra opposés à la présence des femmes dans l'armée, par exemple. Donc, il essaie d'aller chercher des soutiens partout, mais il est à la fois discrédité auprès des ultras et discrédité peut-être plus que jamais depuis qu'il a été élu auprès de l'opinion publique. Donc c'est une quadrature du cercle difficile à tenir.
Et alors cette question du mur, sans mauvais jeu de mots, est-ce que c'est une mauvaise passe ou une impasse, une balle dans le pied, une erreur stratégique ou tactique comme on dit beaucoup de monde, ou plus simplement qui s'est heurté cette fois-ci à un adversaire de taille comme on dit beaucoup de commentateurs, Nancy Pelosi, donc la leader de la Chambre, désormais démocrate.
C'est un petit peu tout ça. Il est aujourd'hui pris au piège de sa promesse de campagne la plus emblématique, qui est la construction de ce mur qui, dans les faits, est impossible à cause du Rio Grande, à cause de tout un tas de considérations de terrain et juridiques, droits de propriété. etc. Mais tout dépend de ce qu'on entend par mur. Hein. Lui-même, il est passé d'un mur en brique à peut-être un mur en métal.
Tout récemment, oui.
Peut-être renforcer la barrière qui existe déjà sur une partie de la frontière. Et puis, effectivement, en face, vous avez une opposition qui est quand même galvanisée par sa nette victoire au midterms du 6 novembre dernier, avec une chambre de représentants qui a une majorité de 40 sièges, c'est beaucoup, qui a repris beaucoup de postes de gouverneur, et une Nancy Pelosi qui est pas tombée de la dernière pluie, hein, qui était la première femme speaker de la Chambre déjà en 2007, et qui est pas arrivée en position de force, y compris dans son propre camp, en tant que speaker, c'est-à-dire présidente de la Chambre des représentants. Il y avait un certain nombre de voix qui s'élevaient pour dire qu'il fallait quelqu'un qui était peut-être plus à gauche, chez les démocrates. C'est une personnalité aguerrie. Et finalement, ce qui se passe aujourd'hui, à la fois dans cette histoire de shutdown et dans les problématiques judiciaires qui visent Trump, finalement, on voit que les institutions lui résistent. Et c'est, je crois, une lecture qu'on peut faire, c'est que finalement, la démocratie américaine fonctionne bien. On le laisse pas faire tout ce qu'il a envie de faire, en bravant ou en menaçant de braver les règles, hein, en disant je vais envoyer l'armée pour construire le mur coûte que coûte. Non, c'est pas comme ça que ça se passe dans une démocratie.
Et parce qu'en ce sens, Nancy Pelosi, elle a aussi justement une portée symbolique, hein, une figure de responsabilité représentante de l'institution face un peu à la dérive de Donald Trump. Mais quel effet politique elle peut réellement avoir au-delà de cette passe du mur, pour les coups? Elle lui a dénié temporairement cet accès au mur, ou en tout cas cette rhétorique et donc ce projet politique. Le shutdown également, qui n'est que temporairement en pause. Les attributs de la présidence au Congrès avec ce discours sur l'état de l'Union qu'elle lui interdisait quasiment de faire. Mais qu'est-ce qu'elle peut faire de plus?
Continuer à jouer son rôle de garde-fou institutionnel, de rappeler quelles sont les règles et lui montrer qu'il ne peut pas, faire tout ce qu'il veut. Et puis, c'est sans doute quelqu'un qui ne sera pas candidate à la présidence de 2020, mais qui peut jouer un rôle important dans la définition de l'offre politique du Parti démocrate en 2020, parce qu'elle sent un peu aussi ce vers quoi Trump va peut-être essayer d'aller. Est-ce qu'il va continuer à galvaniser sa base sur les questions identitaires? Est-ce qu'il va essayer plutôt d'aller vers le compromis avec les démocrates sur un grand plan d'infrastructure, par exemple, sur la réforme du système des aides sociales, voire de santé? C'est pas impossible. Il peut aussi changer son fusil d'épaule. Donc, elle va voir ça de près. Parce que Trump est affaibli, mais en face, on n'a pas forcément un parti démocrate qui est en ordre de bataille et qui obéit une certaine cohérence idéologique. On l'a vu avec les midterms, il est partagé entre une tradition depuis 2016 qui est plutôt centriste, qui est plutôt modérée, avec des figures comme Joe Biden, mais il y a une aile gauche qui pousse pour avoir un agenda beaucoup plus social, sur un système de santé universel, sur la gratuité des études supérieures, sur l'environnement, sur les droits des femmes et des minorités, avec toutes les figures qui sont montées, qui sont très médiatiques. Donc on a déjà presque 10 candidats aux primaires démocrates. Donc c'est un parti qui est un peu écartelé entre deux grandes tendances. Et ça l'affaiblit aussi. Ça l'affaiblit face à Trump. Et Trump le sait, il va jouer là-dessus.
Et sans compter cet ancien patron, tout juste ancien patron de Starbucks, Howard Schultz, dont on parle beaucoup depuis quelques jours, qui se présenterait comme concurrent indépendant pour la présidentielle. Véritable danger pour le Parti démocrate, dit-on, parce que centriste, justement.
Oui,
pardon, pour le Parti républicain.
Oui, et même pour le Parti démocrate, parce qu'il estime que le Parti démocrate n'est pas assez progressiste. Oui, Trump a fait un tweet hier pour dire que c'était pas une personne intelligente et qu'il ferait mieux de lui payer son loyer dans la Trump Tower.
Puisqu'il se trouve au premier étage de la Trump Tower, c'est un Starbucks, je crois. Alors, dernière chose peut-être, en ce qui concerne le shutdown, quand même, il vient d'être chiffré par le bureau du budget du Congrès. Alors, c'est un impact qui est assez négligeable, mais sur des fonds de prévision économique plutôt mauvais pour Donald Trump. À qui est-ce qu'on attribue, disons, la responsabilité du shutdown? Qui est-ce qui va en payer l'impact politique?
Alors, ce qu'on constate avec ces sondages d'opinion, c'est que la défiance contre les élites est toujours forte aux États-Unis. Les cotes sont très faibles du côté démocrate et républicain, mais semble-t-il, les sondages convergent pour dire que c'est plutôt à Trump que l'opinion publique attribue l'échec des négociations qui ont conduit au shutdown et au shutdown prolongé. Et ça, dans toutes les catégories, y compris chez les plus démunis, y compris chez les blancs, etc. Donc, il y a quand même un sentiment anti-élite qui demeure, qui lui avait été favorable pour son élection en 2016, mais dont il semble qu'aujourd'hui lui-même pâtisse, parce qu'il est considéré comme il se présente comme l'homme qui fait des deals, comme il avait fait quand il était homme d'affaires, et là-dessus il a perdu, il est revenu sur en deçà même des concessions qu'il avait faites en décembre. Oui. Il a reculé encore plus que ce qu'il avait essayé de promettre en décembre.
Alors, voilà pour les reculs politiques. Il y a un tout petit point sur la question institutionnelle ou judiciaire. Donc il y a eu l'inculpation encore d'un vieil ami, dit-on, de Donald Trump jeudi dernier. Il est question de plus en plus, là, depuis cette nuit, de conclure cette enquête. Hein. C'est le ministère de la Justice qui en parle, qui dit qu'elle va être conclue bientôt. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous avez des informations? Ça tendrait à quelque chose?
J'aimerais bien avoir des informations. Non, on est dans un feuilleton qui est bien dont le secret est bien gardé par le procureur Mueller, un feuilleton dans le feuilleton Trump, parce que Trump c'est aussi quelqu'un qui feuilletonne beaucoup sa présidence, qui dit tout le temps on verra ce qu'on verra suite au prochain épisode, on verra bien, y compris pour des choses très importantes comme la rencontre avec Kim Jong-un. Voilà, il est dans une sorte de teasing comme dans The Apprentice, finalement. Mais là, c'est un feuilleton dans le feuilleton, et tout ça est très très sérieux. Et chaque semaine, on se dit que l'étau se resserre auprès de son entourage, et peut-être de lui-même. Qu'est-ce que le procureur Mueller a réussi à prouver? Est-ce que Trump a obligé certains des témoins à mentir devant le Congrès? On le saura peut-être dans quelques semaines, ou peut-être encore plus tard, on va voir.
Bon, à suivre les prochains jours, audition de Michael Cohen encore le 8 février. Merci beaucoup Marie-Cécile Nave, chercheuse associée à l'IRIS. On enverra vos articles, merci.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture présente Les Estivants, le nouveau film de Valeria Bruni-Tedeschi. Dans une grande maison de la Côte d'Azur, Anna retrouve sa famille pour les vacances.
Il arrive quand, Luca?
Mais il arrive ce week-end.
Au milieu de l'effervescence, Anna doit gérer sa récente rupture. Peu à peu, des rapports de classe, de force et de désir vont ébranler l'harmonie qui règne dans cette maison.
On croit arriver au paradis, c'est l'enfer.
Vous savez, chacun fait sa vie dans cette maison.
Les Estivants, avec Pierre Arditi, Valeria Golino, Noémie Lovski, Yolande Moreau et Valeria Bruni-Tedeschi. Mercredi 30 janvier au cinéma. Un film France Culture.
Et à 6h57 sur France Culture, nous commençons les matins en rejoignant Guillaume Herner à Strasbourg. Bonjour Guillaume.
Et oui, nous sommes à Strasbourg. Bonjour Xavier Martinet, bonjour à tous.
Et d'ailleurs, Strasbourg, c'est la ville de Marc Bloch.
Comme Lyon et la ville de Jean Moulin, Marc Bloch est un immense historien assassiné à 57 ans, 1944, par les nazis, juif et résistant, né en patriote, mort en patriote. La famille de Bloch était une famille d'optants. Les optants, ce sont ceux qui ont choisi la France au moment de l'annexion de l'Alsace et la Lorraine. Il est avec Lucien Febvre, le fondateur de l'École historique des annales, une manière d'écrire l'histoire qui fait passer la société avant l'individu. On lui doit de grands livres d'histoire médiévale et notamment Les Rois Thaumaturges, un ouvrage qui résonne étrangement aujourd'hui puisque Bloch y interroge la tradition française qui consiste à donner aux souverains des pouvoirs de guérisseur. Dans ce travail, Bloch explique comment les Français ont voulu croire que leur souverain, allié à l'Église, avait des pouvoirs miraculeux. Et c'est ainsi que l'on croyait le roi capable de soigner la peste, les scrofules. Il était plus qu'un homme, doté dans l'imaginaire d'une force peu commune, capable de résister aux ennemis les plus féroces. Marc Bloch a expliqué comment le Moyen-Âge avait adhéré à ses croyances. Et quand je dis qu'il l'a expliqué, cela signifie qu'il a donné les raisons de ses croyances, au lieu de renvoyer nos ancêtres à une supposée irrationalité ou à une bêtise primitive. Car finalement, au travers des pouvoirs prêtés au roi, ce qui se jouait, c'était les alliances et les luttes du pouvoir spirituel et du pouvoir temporel. Et au final, cette erreur collective était le fruit d'une illusion collective, d'un acte de foi. Les rois étaient thaumaturges parce que le peuple les croyait thaumaturge, parce que finalement, en croyant au roi, ils croyaient en eux-mêmes. Aujourd'hui, le peuple de France a même tendance à penser que le roi Macron ne peut même pas guérir la peau sèche ou les rhumes de saison, d'où la colère, née de nos déceptions, comme si nous avions toujours la nostalgie des rois thaumaturges. L'illusion collective s'est dissipée, nous ne croyons plus au souverain, et surtout, nous ne croyons plus en nous-mêmes, nous autres Français. Si nous ne reprenons pas confiance en nous, par exemple au travers du débat en cours, alors nous passerons à l'autre grand livre de Marc Bloch, un livre intitulé « L'étrange défaite ».